Oui, peut-être que les conclusions sont déjà faites. Est-ce que je dois vraiment conclure quelque chose? Je ne sais pas, parce que je pense que tout a été dit. Alors, je vais donner mon point de vue. Et puis, puisque vous m'avez fait l'honneur de commencer le colloque et de le finir, je me souviens qu'il y avait une phase de questions qui n'avait pas été posée parce que j'avais été un peu long, j'étais fatigué. Si vous voulez, on pourrait faire une heure et demie de débat. Est-ce que c'est une bonne idée maintenant?
Bon.
Il n'y a pas vraiment de résistance, peut-être que des micro-résistances. Vous êtes courageux.
Bien.
Alors, écoutez, je vais un peu refiler simplement mon sentiment, repréciser quelques petites choses peut-être, parce qu'il me semble que c'est des points difficiles, mais Jean-Paul l'a déjà bien dit, alors j'espère ne pas répéter. D'une part, mon sentiment, c'est un sentiment qui touche au dépaysement, qui était en filigrane très souvent dans cette colloque, dans cette rencontre, et dépaysement qui est cette étrange familiarité que j'ai, moi, d'être dans une nouvelle rencontre sous les ambiances. Alors c'est vrai, j'ai de l'ancienneté, on a commencé le laboratoire en 1980, le thème des ambiances lui-même en 1990, donc on a beaucoup pataugé dans les problèmes, essayé de proposer des solutions, dialoguer beaucoup avec les collègues, les uns et les autres. Et cette familière et étrangeté, elle est à la fois d'être ici, d'être au Brésil, qui est un pays magnifique, avec toute une série d'apports aussi du vieux continent qu'on retrouve au coin d'une rue. Donc c'est un phénomène de surprise presque permanent, pour moi en tout cas. Et puis, c'est aussi cette familière étrangeté de revenir sur les ambiances, de revoir fort heureusement qu'il y a toute une série de choses qui rebondissent, une relève des problèmes d'ambiance qui est faite, et qui du coup me font que je suis aussi souvent dans des positions de déplacement, de glissement. Sémantique, je ne sais pas, mais glissement. Sémantique, c'est vrai. Alors, première remarque que je voulais faire, ben oui, la définition des ambiances, on est obligé de la faire avec mes collègues du début du doctorat, parce que quand on est tout seul, quand on est chercheur, on a une tribune, on peut y aller, on peut se lancer, on peut réinventer en permanence. Devant une cohorte d'étudiants, il faut quand même un peu de cohérence, il faut réfléchir, il faut faire attention. D'ailleurs, il y en a toute une série qui sont là, donc je vais essayer de ne pas me faire prendre au piège. Alors, on avait convenu que l'ambiance était, pour finir, la notion la plus hospitalière. D'ailleurs, dans le réseau lexical en français, celle qui est au centre de tous les renvois, bi-univoque, univoque, etc. On s'est dit comme ça, déjà, on pourra viser large et accueillir beaucoup de gens. Vous savez que le Cresson est un organisme qui absorbe plein de gens, qui a un sentiment très impérialiste, etc. Alors, bon, ambiance, donc ça marche. Alors, on est parti là-dessus, aux autres, quand même, il faut resserrer un petit peu les affaires. D'une part, on va dire que quand on a l'ambiance, qu'on travaille en matière d'ambiance, parce qu'il y a 100 autres façons de travailler, on doit ne jamais oublier quatre choses. La première, c'est qu'il y a un donné physique, il y a de la forme, donnée, architecturée, construite, aménagée, etc., avec des propriétés physiques. Deuxièmement, évidemment, on a un jeu, une subjectivité, une machine à percevoir, comme vous voulez, on peut se décliner toutes les possibilité de parler de ce qu'on convient de nommer le sujet, avec bien sûr son sentir, mais ses émotions. D'emblée, il y a de l'émotionnel dans une ambiance. Autrement, on part, on met sur un autre registre. Troisièmement, il y a tout le champ de l'altérité physique, concrète, l'autre, et puis l'altérité représentée, qui est tout le domaine de la culture, de la référence, qui est là comme horizon, comme fond. Et puis quatrièmement, peut-être le plus difficile à creuser, c'est que l'ambiance est inexprimable. Je ne dis pas qu'on peut l'exprimer facilement, elle est toujours susceptible d'être exprimable. Dès que je m'en rends compte, alors il va avoir envie d'en parler, comme ces sentiments qu'on peut avoir quand on sort d'une salle de cinéma, d'une exposition. « Ah, c'était super, je vais te raconter, j'ai envie d'en parler. Ouais. » Alors, il y a ce moment-là où la surprise de l'ambiance, l'émergence, donne envie d'en parler et incite aussi le chercheur et l'universitaire, l'étudiant, etc., à en parler. Ben, si on n'en parle pas, on passe à autre chose. On parle d'espace, etc. Alors, ça me paraissait important, cette hospitalité-là. Et en fait, elle a été construite, là aussi, c'est peut-être important, je prends 30 secondes là-dessus, contre deux choses. Une notion apparaît parce qu'on en a besoin, autrement on garde les vieilles. Elle est apparue pour nous au début du doctorat parce que, un, on en avait marre de laisser aux ingénieurs, qu'on adore, il y en a dans l'équipe, la maîtrise des ambiances. Avec surtout cette attitude que, bon, alors les problèmes de lumière, de son, etc., on les renvoie à l'ingénieur, et dans la pratique, on se dégage de sa responsabilité sur le bureau d'études qui va s'occuper de tout ça. Voilà. Alors ça, on dit, non, ça ne va pas, il faut avancer, il faut avoir une attitude plus positive, et en même temps dépasser, tout en intégrant cette maîtrise des ambiances, des sciences de l'ingénieur. J'en ai parlé au début, je n'y reviens pas. Deuxièmement, elle était aussi, après 10 ans de travail en matière d'environnement, elle était dans les comités nationaux, on a plongé dans tout ce qu'est l'environnement, sonore, lumineux, etc., podotactile, les revêtements, et on s'est dit, l'environnement finit par nous coincer, parce qu'on a du mal à aller chercher l'action de l'habitant et une dimension proactive pour aborder le problème. Donc on a dépassé, sans du supprimer la question de l'environnement, en disant il y a un environnement et puis il y a un environnement sensible. Cet environnement sensible, on va l'appeler ambiance. Voilà. Bon, je ne reviens pas sur d'autres distinctions, ne compliquons pas les choses. C'est vraiment comme ça que, naturellement, on n'a pas décrété de travailler sur les ambiances, de plonger dedans. Les choses ont pris une sorte d'évidence. Voilà. Alors, je glisse tout de suite sur la question de la culture, parce qu'elle est là. J'ai parlé de la référence. Dit très brièvement, moi je me demande, en particulier, la culture, elle est bien au niveau sédimenté déjà, au niveau 3. D'une ambiance bien connue par les ingénieurs, par les sociologues aussi, qui vont interroger les réactions des habitants sur la lumière, sur le son, on commence à empiler de la connaissance, on a eu plein d'exemples donc aujourd'hui. Et puis la culture, elle intervient, ça c'est plus difficile, au niveau infra, dans ce que Strauss appelait le pathique, d'ailleurs je baigne dedans et je plonge dans le monde et voilà. Et Strauss, qui a beaucoup inspiré Merleau-Ponty, il faut le rappeler, dans son magnifique Vom Sinn der Sinn. J'ai l'air très pro-germaniste, mais ça dépend des saisons. C'est maintenant, après je change, qui a été traduit en français, Le sens des sens, je ne sais pas en brésilien, c'est un livre magnifique de 1935, d'un type qui part de la physique, de la physiologie, et qui fait tout le parcours, qui termine en phénoménologue. Donc il nous montre le chemin qu'on peut faire. Alors, c'est surtout au niveau 2 que la culture est intéressante, au niveau des émergentes. Les émergences, et peut-être qu'on pourrait reprendre là une belle distinction de Spinoza qui parlait d'une nature naturée, donnée, fixée, et d'une nature naturante. Alors, il y aurait une culture culturée, le donné, qui est là, qui fait référence jusqu'à l'académisme, et puis il y a une culture culturante, celle qui est en train de se faire, celle qui bouge tout le temps. Et c'est celle-là que nous allons chercher chez les habitants, chez les usagers, etc., en voyant comment on utilise le sensible pour construire, pour configurer quelque chose, configurer du présent, du vécu. Et ça, c'est une... Alors, on va empiler à toutes sortes d'échelles, à toutes sortes de niveaux, en termes de l'individu, le groupe, le sous-groupe, etc., une culture culturante, qui est toujours en avant, bien sûr, on le sait bien par l'art, par exemple, la culture ordinaire, la culture sédimentée. Après, sur le langage, j'irai très très vite. Le langage, c'est très intéressant parce qu'il nous confronte de front à la question du non-perçu. Bien sûr, on peut toujours parler d'eux, mais à un moment, comment on va faire pour parler de cette expérience de l'ambiance? Alors, sur cette question objet-sujet, pour finir, Merleau-Ponty n'est peut-être pas non plus aussi compliqué. Merleau-Ponty s'est battu toute sa vie dans la question de savoir comment parler à la fois du sujet et de l'objet, dans leur distinction, et comment, en fait, ça marche en même temps dans la sensation, dans le sentir, pour être plus exact. Et il va finir effectivement sur la question, à la fin de sa vie, visible et invisible, sur la question de la fusion des choses, de ce qui fait chair, comme il le dit si magnifiquement et qui a été rappelé tout à l'heure. Mais quand même, la question reste, qu'est-ce qui fait sens dans une ambiance ? Pas signe, signe ça serait déjà très élaboré, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait qu'à l'apparaître même d'une ambiance, avant même qu'elle apparaisse, quand elle commence à émerger pour moi, par surprise, par ce que quelqu'un d'autre me dit, etc., comment il y a déjà du sens qui est dedans? Donc il y aurait déjà des petits bouts de culture au moment de l'apparaître. Et là il y a une question très très précise et tout à fait passionnante si on veut avancer sur la compréhension des ambiances. Sur la corporéité, le résumé a été très bien fait aujourd'hui, je ne dirai rien. Pourquoi? Parce que si les sens sont toujours quelque chose dont on tient compte quand on parle d'ambiance, alors c'est un corps. Et il y a une complexion sensible, corporo-sensible, qui est là, de facto, et qui va bien sûr user des sens pour le corps, ce qu'il a à faire, le corps et ce qui est dedans. Là, peut-être, la pensée, l'imaginaire, tout cela. Mais surtout, dans tout ce qui est du pressenti et de l'imprégné, tous ces phénomènes-là d'imprégnation, de prégnance des atmosphères, qui posent des vraies questions de sémantique. Et pourtant, on sait bien qu'il y a des choses qui font sens avant même que je les ai bien nommées, que je les ressente parfaitement. Dès là, il y a comme une esquisse de sens qui apparaît. Alors, et puis une dernière chose, qu'est-ce qu'il y a aussi quand je ne ressens pas, quand je n'ai pas conscience, mais que je ressens déjà? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'était le foot, le match de foot dernier où certains ont plongé. C'est qu'est-ce qu'il y a dans l'intercorporéité et comment fonctionnent les chaînes moteurs de chacun d'entre nous dans la situation de l'allocentrement, dans la situation où on est en extase de soi-même, où on disparaît dans la foule, dans les autres, en étant tout en ayant quand même mon corps propre et le corps des autres. Alors, il y a une vraie question qui est posée et qui sera sûrement. Peut être éclairé par la neurophysiologie nouvelle, on se bien par la psychologie usée. Enfin, j'étais très. Moi, il y avait la scène terrible racontée tout à l'heure. Ça, c'est une scène, je ne sais pas si c'est d'ambiance ou quoi que ce soit, mais c'est une scène qui donne envie de se taire, qui interdit. Hein, on ne sait plus quoi dire. Alors, après, j'ai un peu réagi, pardonnez-moi, parce que souvent, je l'avais dit l'an dernier, on dit. Ben oui, vous vous occupez des ambiances parce que c'est du luxe, c'est pour les cultures développées, alors on va travailler en termes de confort, et puis c'est ridicule, et ça n'a pas de sens par rapport à la misère du monde, quoi. Et alors, quand même, on va revenir un petit peu en arrière. Première remarque, toute culture, toute civilisation a un savoir-faire sur ses ambiances, qui est coulé dans la façon de bâtir, dans la façon d'aménager, la façon de faire des chemins dans la forêt ou la voie romaine. Chaque fois, il y a bien une mise en ambiance par le geste de construire, d'aménager. Toutes les cultures du monde, de la hutte à la ziggourate, à tout ce que vous voulez, elle fait de l'ambiance, même s'il n'y a pas de discours sur les ambiances. Elle va construire des configurations sensibles, perceptibles en tout cas, et qui sont offertes aux occupants. Alors ça, je dirais, c'est ce qui est de front. Alors là, pas de différence entre une culture développée, moins développée, etc. C'est ridicule. Deuxième chose, les configurations ambientales, elles permettent justement d'incarner, de concrétiser toutes les formes de lutte, de résistance. Alors, quelquefois c'est l'art, on le voit, mais beaucoup plus simplement, mais en deçà du geste de l'art, qui était très bien raconté, pour exprimer ce que pensent les gens, il y a aussi une expression qui va passer par plein de choses. Alors on va prendre les tags, les graphes, etc., mais aussi casser justement les objets de la bonne ambiance. Se révolter contre les objets de la bonne ambiance, une bourgeoisie, etc. Et ça, alors, c'est bien des gestes qui sont toute forme de résistance et qui s'incarnent, là aussi, par une facture, une configuration, une manipulation, un façonnage de facteurs d'ambiance, à s'afficher, et s'afficher dans la révolte. Ça, je crois que c'est important à l'avoir bien saisi, y compris jusqu'au silence et au refus de communiquer. C'est une autre forme de jouer cette fois sur le non-bruit face à un bruit extrême ou inversement, imposer un bruit énorme dans une zone de silence. Alors on peut prendre 1000 exemples sensibles. Alors, j'étais sur la violence. Comment on peut passer à l'esthétique? Et j'approche de la fin de mon propos. Passer à l'esthétique, ben, justement, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps au début. Pour finir, le sentiment esthétique est très très proche de la violence, sinon l'envers de la violence. Est-ce que j'ai essayé de développer en m'appuyant sur la psychologie du développement, en particulier toute la filière de Mélanie Klein, toute cette expérience première, princeps du tout petit enfant, dont on fait aussi l'expérience, le plus grand plaisir, si on passe en termes de plaisir, il n'y a pas que ça, une expérience esthétique, peut être tout à fait à la limite du basculement dans un sentiment de vide, d'absence, voire de violence, parce qu'on n'arrive pas à saisir, à maîtriser justement ce sentiment-là et ce qui est en train de se passer. Donc il y a mille déclinaisons possibles de cela. Et du coup, alors, on s'en vient compte que si on ose parler d'esthétique des ambiances, c'est au prix d'un sérieux nettoyage, celui-là d'abord. Bien sûr, la qualité esthétique n'est pas coulée dans l'objet dans la conception platonicienne. Deuxième tournant, il n'est pas non plus simplement un jugement sur l'objet, la révolution kantienne, mais elle serait à ce moment-là profondément inscrite dans toute pratique quotidienne, dans tout vécu quotidien. On aurait déjà, à la racine même de l'esthétique, ça serait l'état natif du sensible. C'est justement cette expérience esthétique première et qui est toujours déjà là, parce qu'on s'est débarrassé de la question, et l'esthétique s'occupe du beau, de l'art, et puis c'est l'esthétique de jugement, puis c'est fini. On revient bien à l'esthésique dont parlait Nathiez, et dont quelqu'un, Jean-Jacques Nathiez, ou quelqu'un a parlé, et qui est une continuité qui va après, peut aller jusqu'à au sentiment de plaisir, de déplaisir, de rage, de colère, etc. Tout ce qu'on voudra, toutes les émotions qui vont être là, devant une configuration, et qui peut après aboutir, qui peut cheminer, s'avancer du côté de ce qu'on appelle le jugement esthétique, jusqu'à l'évaluation. Donc, de ce point de vue-là, si on rétablit la dimension active de l'esthétique, sa dimension critique contre l'esthétisation, cette fois le détournement, on en a parlé, l'esthétisation du quotidien, du politique, etc., qui nous encombre, cette dimension critique est capitale, même ressaisir l'art actuel comme une piste très intéressante de ce qui est en train de se passer hors des musées, hors des salles de concert, etc. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Là, on voit une culture culturante qui est en train de façonner de nouvelles formes de sentir, de sentir tout simplement, pas simplement d'art, mais de sentir. D'où la thèse extrême des philosophes dont j'ai parlé en disant, pour finir, tout artiste, qu'il a fait. La première chose qu'il a à faire, c'est l'atmosphère. Mais pour finir, peut-être que l'architecte aussi. Alors, j'en viens à une question que moi j'ai toujours trouvée étrange et inepte. Quelle est la part de l'art en architecture? C'est l'architecture et l'urbanisme. Comme s'il y avait une part, c'était un art mineur. Alors, il y a une petite dose d'art, une petite dose de technique, il y a une dose d'histoire, de la culture, etc. Il y a la résistance des matériaux. Enfin, il y a un tel geste de saisissement, de coalescence d'architecture que là, il n'y a pas de part de l'art. Il y a un geste qui est esthétique d'emblée. Il est déjà esthésique ou esthétique d'emblée. Toute forme, je commence à dessiner, inclut déjà toute une série de propriétés passives, physiques. Un rond ne va pas faire des propagations de flux, de son, etc., de lumière, comme un bâtiment orthogonal, juste quand je dessine un tout petit peu comme ça. Donc déjà, dans tout acte créateur architectural, il y a déjà cette dimension esthétique, simple. C'est peut-être pas du grand art, ni des grands bâtiments, on n'est pas des grands architectes, on s'en fiche. Tout acte, déjà, même au niveau du dessin, préconçoit déjà ce qui va se passer. Alors, ce qui est très intéressant, pourquoi au fond? Parce que là aussi, puisqu'on a un certain passé, on n'a pas décidé un jour, on travaille sur les ambiances, on trouve des financements, c'est pas facile, mais on en trouvera quand même. On a une vocation, on était dans une école d'architecture, on avait un devoir de partir de problèmes concrets de l'architecture, de la ville, de l'aménagement, en termes d'usage, en termes de vis de bâtiment, tout aussi bien. Et puis, on a essayé de travailler toute une série de disciplines larges, et je pense que l'interdisciplinarité est possible, je finirai là-dessus dans une minute, s'attaquer à ce problème de l'architecture. Qu'est-ce que l'ambiance fait à l'architecture? Qu'est-ce que travailler en matière d'ambiance, à partir de ça, qu'est-ce que ça fait à l'architecture? Il y a quand même c'est la transmission de l'architecture, l'apprentissage, la conception du métier, ça chamboule quand même deux, trois petites choses. D'une part, ce n'est pas l'espace qui est premier, c'est le temps. Si on travaille sur le vécu des ambiances, c'est d'abord du temps auquel on a affaire. Et il se trouve que le son, c'est d'abord du temps. L'odeur, c'est d'abord du temps. Les odeurs, ce n'est pas linéaire. Ça va, ça vient, ça apparaît, ça disparaît. Le podotactile, tactile, ben, quand je ne bouge pas, ça va. Mais dans la marche, c'est d'abord du temps. Donc, c'est aussi une façon de remettre les architectes dans cette fameuse question du vécu ou de la dimension temporelle de l'acte de bâtir, de l'acte d'aménager. Deuxièmement, c'est quand même confronter, une des façons, il y en a plein d'autres, confronter la conception au vécu, à l'expérience de l'habitant, à l'expérience ambientale de l'habitant, sensible, on va pas se battre sur les mots là-dessus, Et puis, c'est aussi, et pas les ambiances, c'est dire, il n'y a pas du subi pour l'habitant et de l'actif pour le spécialiste, pour l'expert, l'architecte, qui lui fait les bâtiments, puis après, on met les gens dedans. Il y a un agir, bien sûr, des habitants, et cet agir, ce n'est pas simplement un agir revendicatif, voilà, moi je mets un truc, je suis un habitant, je vais à l'association, c'est dans le quotidien. Un étudiant algérien d'une patience infinie a passé 2 ans dans 40 familles à Grenoble en essayant de montrer que les habitants sont d'extraordinaires acousticiens qui s'ignorent. Chacun de nous façonne en permanence son environnement par toute une série de petits gestes, en général pertinents. Et là, alors, il y a un vrai agir à travers les ambiances qu'on voit très très bien par les différents canaux du sensible. Il y a un agir dont on a parlé plusieurs fois, bien sûr, dans ce colloque, et je n'oublie pas, qui montre très bien que travailler en ce sens-là va nous faire réintroduire cette dimension active dans ce qu'on a envie de dire plutôt « je suis dans l'ambiance, alors je baigne, je suis passif ». Non, penser ambiance, c'est penser à l'action, à cette configuration d'ambiance. Alors bien sûr, dernière chose, eh bien, pour ça, il faut des outils. On n'a peut-être pas beaucoup développé aujourd'hui, et c'est bien ce qu'on nous demande maintenant de notre responsabilité de chercheur, d'universitaire. Qu'est-ce que vous faites pour aider la ville, le bâti, l'architecture, l'aménagement? Et pour ça, il faut des outils. Et ces outils, on en a trouvé un certain nombre via des méthodes, et il y a des concepts descriptifs qui travaillent au milieu intermédiaire. Comme disait Deleuze, mon maître vénéré, il faut prendre les choses par le milieu, dès que c'est un peu difficile. Commençons par prendre les choses par le milieu, par l'intermédiaire. Donc c'est des outils qui ne sont pas vraiment des concepts clos, comme l'ambiance, qui n'est pas du tout un concept clos, j'espère. Il va changer, et puis qui ne sont pas non plus des outils hyper techniques. Ils permettent de naviguer du théorique au pratique, et puis de l'expert à l'usager, dans l'autre sens. Si on peut avoir ce type d'outils, alors on peut mettre à la même table un ingénieur, un philosophe, un architecte, etc. Alors on va pouvoir commencer à travailler en commun, parce qu'on a des outils qu'on est en train de forger en commun. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir eu encore un petit peu de patience. Pour finir, moi j'avais un grand merci à faire aussi d'avoir été invité, mais d'avoir le plaisir d'être avec vous, de replonger, alors que je suis à la retraite déjà, je ne devrais plus figurer dans les colloques peut-être.
Ah,
ben non,
ça n'a rien à voir.
Alors je suis toujours là, je replonge dans la marmite des ambiances, c'est vraiment passionnant. Lorsque je trouve aussi des paysans, mais bon, je suis musicien par ailleurs, mais ça je sais depuis longtemps, mais l'éprouver sur place, pas seulement dans la musique, mais dans la culture globale, c'est, on va finir sur les chiffres, on sait qu'à part peut-être les pièces de la musique du Nord-Est, globalement, la musique du Brésil, c'est une musique binaire. Mais elle n'avance pas si elle n'a pas toujours la pulsion ternaire en dessous. Ce qui est extraordinaire ici, c'est qu'on fait 2 et 3 en même temps, je trouve ça merveilleux. Je vous remercie.